Merci de votre présence. Je regarde parce que
on s'y fait un petit peu avec cette organisation. Donc voilà, toutes nos excuses pour cette alternative qui nous a été un petit peu imposée par l'organisation interne au lycée. Il y a une manifestation qui se déroule là où normalement le café philo se déroule. Et évidemment, elle est prioritaire. Donc on s'est rabattu sur l'amphithéâtre du lycée. Il n'est pas optimal, on va voir ce que ça donne, mais pour animer un débat, un café philo, voilà, vous ne voyez pas les uns les autres, enfin, c'est pas forcément la configuration la plus... La configuration parfaite, pardon, excusez-moi. Y a-t-il des personnes qui découvriraient le café philo ce soir? Oui. Très bien, bah, merci, bienvenue. Alors, je me présente très rapidement, je suis Nicolas Déré. Je suis professeur de philosophie ici même, au lycée Jean Zay. Et je co-anime un mois sur deux le Café Philo avec Laurence. Voilà. Laurence Lacroix, qui est professeur au lycée Voltaire à La Source. Voilà. Alors le Café Philo, il se déroule de la manière suivante. Il n'y a aucun sujet qui est donné une fois sur l'autre. Vous venez, si vous souhaitez, avec vos propositions, avec vos questions. On va les recueillir là maintenant, on va les noter, puis on va voter pour... Vous allez voter, pardon, pour la question qui vous semble le plus intéressante ce soir. Et on est parti pour un débat qui durera environ 1h30. On termine vers 20h30, 20h40. Avec en plus la deuxième déception, non seulement on n'a pas la salle, et puis on n'a pas le droit d'organiser ici... buffet convivial, donc ça sera café philo sans café. Mais bon, on a la philo. Voilà. Après, on peut avoir le café sans la philo. Voilà. Donc, si vous avez des questions, des thématiques, soit sous forme d'interrogation, soit sous forme voilà, d'affirmation, des propositions, on va commencer à les collecter et puis savoir ce qui vous anime ce soir. On vous fait peut-être passer un micro. Alors si c'est pas évident de faire passer le micro dans les rangs, enfin bref, c'est comme ça. Ah, on avait...
Allô ?
Ouais. N'hésitez pas, voilà, si vous avez des propositions pour le débat de ce soir. Oui, monsieur.
Moi, ma question, comment dissocier la matière et l'énergie de l'âme? Parce que dans la religion bouddhiste, bon, je sais qu'on n'est pas forcément là pour parler de religion, mais on tend à... On prétend que la matière et l'âme sont indissociables, et l'esprit, la matière et l'esprit. Donc j'aurais voulu avoir votre avis, quoi.
Ouais, alors, je pense que je vais pas, on va pas aller vers votre question, j'en suis désolé. Pour deux raisons, la première c'est qu'on l'a en partie abordé lors du dernier Café Philo, il y a un mois de ça. Je pense qu'on avait travaillé sur la jeunesse de la conscience. Et puis surtout, ça dépasserait mes compétences. On irait plus ici vers la spiritualité, vers la psychologie, voire vers de la science physique, et bien plus qu'une réflexion d'ordre philosophique. Je pense que voilà, on risquerait d'être tous un peu frustrés.
Merci quand même.
Pour ma question, ce serait pourquoi y a-t-il toujours des avis divergents? Dans un peuple, dans une société.
Pourquoi y a-t-il toujours des avis divergents? Pourquoi ne sommes-nous donc pas tous d'accord?
Bonsoir.
Bonsoir.
Ma question serait pourquoi la démocratie ne l'emporte pas sur la dictature.
Pourquoi la démocratie ne l'emporte-t-elle pas sur la dictature ?
Bon, elle pourrait être mieux formulée, mais en gros, c'est l'idée.
On peut peut-être le formuler de la manière suivante, vous me dites si ça vous convient. Pourquoi la démocratie nous semble-t-elle si faible ?
Fragile.
Fragile ? Oui, bonsoir.
Bonsoir. Ça fonctionne super bien.
Ouais, c'est impressionnant. Ça, c'est bien. Finalement, les micros marchent toujours très bien.
Moi, j'ai une question qu'il va falloir peut-être m'aider à formuler. Au départ, je pensais d'où viennent les idées. Alors, je dirais plutôt la pensée. Les philosophes parlent de pensée, pas sur l'aspect physiologique, le cerveau. Et en fait, je me dis, la pensée, je me souviens d'un truc qui... j'avais suivi des cours de philo quand j'arrêtais de travailler. Peut-être la pensée qui se pense, ça existe, ça. Ça a l'air très compliqué, non ?
Les différents. La conscience.
Oui. Comment prend naissance la pensée ? La pensée, pensée et idée, c'est pas la même chose pour moi déjà. Ouais, c'est un distinguo et ça, je suis un peu embrouillé. Donc, plutôt de parler de pensée. Comment elle prend naissance et...
Mmh. Oui, comment la pensée prend-elle naissance ? Avec le même risque qu'on aille vers des réflexions d'ordre psychologique ou neuroscientifique, qui sont très intéressantes en soi, qui sont même fondamentales, moi je serais incapable de venir vous éclairer.
Alors sur l'aspect purement philosophique.
D'accord, admettons. Comment la pensée apparaît-elle ? Comment la pensée surgit-elle ? Advient-elle ?
Bonsoir. Ma question, c'est qu'est-ce que réussir sa vie ? Alors, en filigrane, j'avais pensé quel est le bout de la vie, mais c'est un peu plus... Alors, plus simplement, qu'est-ce que réussir sa vie ?
Qu'est-ce que réussir sa vie ? Vous avez d'autres... proposition, oui, monsieur.
Inspiré par la conclusion de la conférence qu'on a eue il n'y a pas longtemps, est-ce que l'humanité est devenue son propre ennemi commun ?
Très bien. Est-ce que l'humanité est-elle devenue son propre ennemi commun ? Merci.
Est-ce que l'art, dans le sens large, peut être un vecteur de paix entre les peuples ? Je dirais utopie ou réalité.
L'art peut-il être un vecteur de paix ? L'art peut-il être un vecteur de paix entre les peuples, entre les hommes ?
Les religions sont-elles encore pertinentes aujourd'hui ?
Les religions sont-elles encore pertinentes aujourd'hui ? Ça fait penser, c'est un sujet que j'ai donné dernièrement. Un monde sans religion est-il souhaitable ? Les religions sont-elles encore pertinentes aujourd'hui ? Ça nous en fait déjà un certain nombre. 7, oui. Est-ce que vous auriez d'autres propositions, oui, madame ?
Bonsoir. Ma question c'était, est-ce que à l'heure actuelle, nous pouvons encore avoir de la tyrannie dans ce monde ?
La tyrannie est-elle encore possible ? La tyrannie est-elle encore possible ? Oui, c'est bon, on a... personne ne sera frustré de ne pas avoir pu proposer une question. Donc on va peut-être en faire la synthèse, les rappeler, puis ensuite procéder à un vote rapide.
Alors, premier sujet, pourquoi y a-t-il toujours des avis divergents ? Deuxième, pourquoi la démocratie nous semble-t-elle fragile ? Troisième, comment la pensée surgit-elle ? Quatrième, qu'est-ce que réussir sa vie ? Cinquième, est-ce que l'humanité est devenue son propre ennemi commun ? Sixième, l'art peut-il être un vecteur de paix ? Septième, les religions sont-elles encore pertinentes aujourd'hui ? Huitième, la tyrannie est-elle encore possible ?
Très bien, merci. Alors donc, vous pouvez voter pour autant de sujets que vous souhaitez. Si tous les sujets vous intéressent, bah vous votez pour chaque sujet. C'est pas mal. Drôle d'élection, quand même.
Alors, pourquoi y a-t-il toujours des avis divergents ?
Alors, pourquoi y a-t-il toujours des avis divergents ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7.
Pourquoi la démocratie nous semble-t-elle fragile ?
Pourquoi la démocratie nous semble-t-elle fragile ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.
Comment la pensée surgit-elle ?
Comment la pensée surgit-elle ? C'est ma faute, ça, je vais dire. Comment la pensée surgit-elle ? 1. Alors, je laisse ça là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Qu'est-ce que réussir sa vie ?
Qu'est-ce que réussir sa vie ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Je vous ai vu.
Est-ce que l'humanité est devenue son propre ennemi commun ?
L'humanité est-elle devenue son propre ennemi commun ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.
L'art peut-il être un vecteur de paix ?
L'art peut-il être un vecteur de paix ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.
Les religions sont-elles encore pertinentes aujourd'hui ?
Les religions sont-elles encore pertinentes aujourd'hui ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.
La tyrannie est-elle encore possible ?
La tyrannie est-elle encore possible ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je crois que c'est le sujet. Hein. Non, le...
Oui, il y a un sujet avec 31 voix. Qu'est-ce que réussir sa vie ?
Ah d'accord. J'étais resté sur la démocratie. Qu'est-ce que réussir sa vie ? Vous avez 1h30. On va enfin savoir. Alors, je crois que c'est monsieur. Voilà. Alors, la tradition, voilà, c'est une tradition philosophique. Hein, c'est ce qui vous anime, finalement. Voilà, j'essaie de le partager et d'expliquer un petit peu les raisons pour lesquelles ce sujet vous porte et pourquoi vous nous l'avez apporté.
Alors, j'ai pensé à ça parce que je pensais à ma pauvre mère qui me disait toujours, elle voulait que je sois médecin, mais j'ai pas été médecin. Et ben pour elle, catastrophe, elle m'a dit, tu n'as pas réussi ta vie. Bon, voilà. Donc j'ai trouvé ça un peu. C'est vrai que qu'est-ce que réussir sa vie, c'est quand même subjectif quand même, parce que d'un individu à un autre, le but de sa vie ne va pas être le même objectif, je pense. Donc, ce qu'il faudrait développer, c'est en fait, qu'est-ce que réussir sa vie, à chacun de dire, ben moi j'ai réussi ma vie. Parce que, par exemple, je suis médecin. Moi, pour ma mère, voilà, j'ai pas été médecin, j'ai pas réussi ma vie. Et elle me l'a reproché. Et puis, peut-être pour d'autres personnes, j'ai entendu souvent dire « j'ai réussi ma vie parce que je suis très riche hein. ». Et puis quelque part, un jour, peut-être que j'ai gratté un loto, puis j'ai gagné 10 millions. Et tout d'un coup, voilà, j'ai réussi ma vie parce que j'ai gratté un... Ouais, ouais. Et voilà, et puis j'irai m'acheter des Rolex. Ouais.
Merci, oui. Ouais. Moi, ce que je note quand même dans les deux, il y a deux éléments quand même que vous apportez, c'est d'abord la réponse que l'on donne ou non au désir de l'autre, en l'occurrence votre mère, un désir qui peut même prendre parfois la forme d'une injonction. Et puis, ce que vous évoquez avec le sourire, cette assimilation que vous faites assez communément dans nos sociétés en tout cas, entre une vie réussie et une vie matériellement confortable, en gros la richesse. Voilà. Réussir sa vie, ça serait avoir sa Rolex avant 50 ans. Moi, c'est trop tard.
Pour moi, réussir sa vie, c'est pas forcément matériel, c'est plus... être sage à l'intérieur de nous-mêmes, finir sa vie en étant sage à l'intérieur de nous-mêmes, et tout en avant fait tous les rêves, toutes les ambitions qu'on veut, de ne pas avoir de regrets dans la vie, enfin, quand on a fini, pas quand on a fini sa vie, mais quand la vie, je sais pas trop comment dire. Oui, mais quand on est plus âgé, enfin voilà.
D'avoir un sentiment d'achèvement.
Voilà, exactement. Et non de regret.
Voilà.
C'est pas forcément matérialiste, c'est plus façon de sagesse ou de des ambitions qu'on a faites.
Voilà. D'accord. D'avoir accompli nos désirs essentiels.
Voilà, c'est ça. Mm-hmm. Enfin, chacun a ses désirs essentiels.
Mm-hmm. Bien sûr.
Alors, bon, déjà, je résonne avec le propos préliminaire parce que mon père voulait aussi que je sois médecin. Et c'est raté. Je trouve que la question, ça me fait un peu sourire parce que rien que la question de base, elle sous-entend quelque chose. Parce qu'on dit qu'est-ce que réussir sa vie, on est presque à se dire qu'il faut réussir sa vie, absolument. C'est, vous avez parlé d'injonctions que peuvent nous donner donc, nos parents, mais en fait c'est peut-être même la société elle-même qui nous donne cette injonction. Il faut que vous réussissiez votre vie. Est-ce que c'est à nous de choisir comment? Est-ce que c'est la société aussi qui dicte ses propres critères de réussite? Il y a certainement un peu de ça, mais en fait, moi ça me pose question. C'est est-ce que mon but dans la vie doit... Qu'il aide de la réussir, est-ce qu'il faut prendre la vie comme une sorte de défi, de combat, ou est-ce qu'en fait, on ne peut pas dépasser en disant, bah, c'est pas à réussir une vie, c'est juste à vivre, quoi.
Merci, parce que là, je pense qu'on commence vraiment à problématiser. Effectivement, il y a quand même une sorte de, en tout cas, de contradiction, peut-être pas explicite, mais en tout cas tacite, entre réussir et sa vie. C'est-à-dire que l'idée de réussite, elle est d'abord matérielle. Enfin, je veux dire, est-ce que je vais réussir à passer mon permis de conduire, à avoir mon bac, est-ce que je vais réussir le gâteau au chocolat que j'ai tenté de faire? Enfin, voilà. Enfin, et à un moment donné, il y aura quand même des critères sur lesquels on va pouvoir statuer en disant bah, c'est réussi ou c'est pas réussi, enfin, je suis en échec, ou c'est à moitié réussi, ou au contraire, voilà, enfin, voilà. Et donc, finalement, comme si finalement on pouvait breveter une vie réussie, une vie qui ne serait pas réussie. Voilà. Or, vous l'avez évoqué, il n'y a peut-être que des représentations subjectives de la vie, et peut-être que la notion de vie, il va falloir aussi la thématiser, elle n'est pas si simple. Et auquel cas, effectivement, il y aurait cette logique un peu managériale, un peu une sorte de challenge, là, voilà, un peu, moi j'ai des images de mon époque, c'est Bernard Tapie qui me vient à l'esprit, vous voyez. C'est pas des grandes références philosophiques, mais enfin voilà cette logique managériale, voilà d'une vie réussie, voilà développement personnel, etc. Et puis à côté de ça, on se dit mais en fait est-ce que je peux penser ma vie à la manière d'un projet commercial? Est-ce que ma vie est une petite entreprise?
Je voulais aussi rebondir par rapport au métier de médecin. J'ai un peu une histoire similaire dans ma famille. Hein. Mes parents, mon père voulait que ma sœur soit médecin. Et elle est devenue médecin. Mais ça ne lui plaisait pas du tout. Et ça n'a pas du tout contribué à ce qu'elle réussisse sa vie. Voilà. Juste, c'est une anecdote. Après, le mot réussite, pour moi, il n'est pas forcément associé à tout ce qui est justement matériel. Et commercial, la réussite, elle est plus d'ordre spirituel, d'ordre de la relation aux autres, d'un équilibre personnel et de ce qu'on apporte aux autres. Et c'est le propre, peut-être, de l'humanité, ou une différence entre l'humanité, peut-être, et d'autres, je ne sais pas quoi, espèces. Mais voilà, on parlait dans un autre débat, on a parlé de la différence entre... Enfin, on a parlé du vivant, en fait. Et je ne sais pas si cette différence entre l'homme ou l'humanité et tous les autres êtres vivants ne peut pas avoir un petit rapport avec ce dont on parle là. Voilà.
Je me permets juste une petite intervention, enfin, de référence philosophique. Ce que vous dites me fait penser à la distinction, alors c'est pas le seul à la faire, mais il se trouve que c'est cette référence qui vient à l'esprit, à la distinction que fait le philosophe, enfin que faisait le philosophe français Maurice Merleau-Ponty, qui est un philosophe du XXe siècle, de la moitié du XXe siècle, dans la mouvance de Camus, de Sartre, voilà, c'est la philosophie de la phénoménologie. Et Merleau-Ponty nous invitait à distinguer la vie et l'existence. Et je pense que voilà, c'est une différence qui peut être assez, enfin, voilà, que vous touchez du doigt et qui peut être assez éclairante pour notre débat ce soir, au sens où la vie relève simplement d'un processus biologique. La vie, finalement, c'est ce que je n'ai jamais choisi. Je n'ai pas choisi de vivre, je suis jeté au monde malgré moi, et puis un jour, je quitterai la vie malgré moi. Enfin, je peux l'anticiper, je peux me donner la mort, mais jusqu'à preuve du contraire, je ne serai pas éternellement vivant. Et donc finalement, la vie, ça relève de la biologie. La vie, c'est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort. C'est ce qui me maintient en vie. Donc finalement, voilà, je vis au sens où je suis un corps vivant. Et en ce sens, c'est ce qu'il y a de caractéristique pour tous les vivants. Un champignon, sa vie, une bactérie, sa vie, un humain, sa vie. L'existence, dit Merleau-Ponty, c'est la conscience que chacune et chacun, alors est-ce que c'est propre à notre espèce ? Ce n'est pas l'objet de notre débat ce soir. Je pense qu'on pourrait actualiser. Bref, n'importe, fermons la parenthèse. C'est la conscience que chacune et chacun prend de sa vie. Et cette conscience, finalement, c'est la pensée de la pensée, c'est le retour sur soi, et c'est ce qui va lui donner un sens. Et alors, sans faire de mauvais jeu de mots, un sens dans les trois sens du terme. C'est le sens au sens de la direction. Quelle direction je vais donner à ma vie ? Est-ce que je vais être médecin, pas médecin ? Est-ce que je vais répondre au désir de l'autre, ou pas ? Sens au sens de la signification. Quelle intelligibilité, quelle signification je donne à ma vie ? Quel sens elle a pour moi ? Quelle signification elle a pour moi ? Et puis sens au sens de la valeur, c'est-à-dire quelle qualité je lui accorde. Et finalement, cette conscience de la vie, ce retour sur soi de ce sapiens sapiens qui pense sa vie en tant qu'être conscient, c'est peut-être ce qui lui permet d'accéder à l'existence. Et donc, qu'est-ce qu'une vie réussie ? Ben, en fait, cette question ne peut se poser apparemment qu'à un sapiens sapiens, un humain, un humain, au sens où, est-ce que la direction que je lui ai donnée me semble adéquate à mes désirs profonds, à mes projets fondamentaux ? Est-ce que le sens qu'elle a pour moi, bah vous l'avez évoqué sans l'évoquer, c'est la notion principale que vous touchez du doigt également. Est-ce que le sens que cette vie a pour moi, cette existence, est-ce qu'elle me rend heureux ? Est-ce qu'elle me rend heureuse ? Et puis finalement, quelle valeur je lui accorde ? Est-ce que la vie que je mène, c'est-à-dire l'existence, c'est-à-dire la conscience que je prends de la vie que je mène, est-ce qu'elle vaut vraiment la peine d'être vécue ? Et la question du suicide, la question de la mort volontaire, ou de l'aide à mourir, pour faire écho à des débats d'aujourd'hui, dans l'Hexagone, pose cette question finalement. Jusqu'à quel moment, jusqu'à quel point une vie vaut-elle la peine d'être vécue ? Et précisément parce que je ne fais pas que vivre, j'existe. Merleau-Ponty, je ne vais pas rentrer trop dans les textes, parce que j'ai un texte qui me vient à l'esprit là, me dit, mais finalement, vous voyez, lorsque les animaux autres qu'humains, ils vivent, c'est-à-dire qu'ils s'adaptent à l'environnement. L'oiseau, il fait son nid, le lapin fait son terrier, et puis l'humain, il construit sa maison. Okay, il s'abrite. Il prend un autre exemple, les animaux ont des écailles, des poils, des ailes, bref, ils s'adaptent à l'environnement. Nous, nous sommes nus et nous construisons des vêtements, répondant à des besoins. Les animaux communiquent entre eux pour satisfaire des besoins. Les abeilles, etc. Et nous aussi, nous communiquons. Mais ce que dit Merleau-Ponty, c'est que dans la maison que je me construis, je projette autre chose que les besoins, je projette du sens, j'y donne du sens à cette maison. Dans les vêtements qui sont les miens, ces vêtements que je porte devant vous sont des signes qui m'identifient, sont des signes extérieurs de je ne sais quoi, en tout cas c'est mon identité qui se révèle. Et dans l'échange de signes auxquels nous procédons en ce moment, c'est-à-dire dans le langage, il y a bien plus que de la communication. Et finalement, ce que nous avons dit, c'est que nous sommes, par la conscience que nous prenons, des êtres qui dépassons la sphère du besoin pour aller faire celle du sens. Et il reprend ça à la Genèse, enfin au texte de la Bible, Adam et Ève étant chassés du jardin d'Éden, s'aperçoivent, ils prennent conscience qu'ils sont nus. Et Merleau-Ponty dit, seuls les hommes, je ne suis pas sûr qu'il ait raison avec le seul, mais bon, peu importe, seuls les hommes voient qu'ils sont nus. Un chat est nu, il ne le sait pas. Moi, quand je suis nu, si j'étais nu devant vous, je le saurais, vous sauriez, je pense que je ne resterais pas très longtemps, enfin, je serais mort de honte, d'accord ? Et donc, eh bien, c'est ça, finalement, qu'est-ce qu'une vie réussie ? Bah, en fait, la question, c'est peut-être, qu'est-ce que c'est qu'une existence réussie ? Sachant que, encore une fois, nous ne pouvons pas ne pas, nous sommes condamnés en tant qu'être conscient, nous ne pouvons pas ne pas donner du sens à notre vie. Nous ne sommes pas que des champignons qui avons une date de naissance et une date de mort. Parfois, je n'ai rien contre les champignons et je ne connais rien de la psychologie des champignons. Il y a sans doute beaucoup à apprendre, mais je le dis sans ironie. Pardon, j'étais un petit peu là.
En plus, je voulais parler du sens et tout.
Ah ouais, bah voilà. Ça, c'est. Voilà.
Alors du coup, pour moi, la question de réussir sa vie, elle reprend un peu celle du bonheur. Et surtout, je voulais faire justement une distinction par rapport au type de société. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est développement personnel, on nous explique un petit peu des modes d'emploi pour être heureux. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est par rapport à d'autres types de sociétés qui vont être plus communautaires. Et qu'est-ce que ça va être pour eux, du coup, ce rapport au bonheur ou ce rapport à, peut-être que justement à la réussite de sa vie, ça n'a pas vraiment de sens dans d'autres sociétés. Et notamment, j'avais lu quelque chose qui est très mystérieux pour moi, et je n'ai pas vraiment précisément la référence, c'était Donald Winnicott qui avait parlé, qui disait qu'à une certaine période de l'histoire, en tout cas en Europe, genre vers le XVIIIe siècle, il y avait quelques personnes, et seulement quelques personnes dans la société qui étaient des individus. Et pour moi, c'est très, très mystérieux, parce que ça sous-entend qu'en fait, je pense que c'était un individu au sens de l'individualité, de justement d'avoir conscience de soi ou de se donner du sens à sa propre vie, alors que le reste des gens, juste, ils vivaient, ils avaient une fonction sociale, peut-être ils faisaient des choses dans la société, il y avait des paysans qui travaillaient la terre, mais qu'au final, cette vie n'avait pas tellement de sens ou un sens différent. Et du coup, voilà, cette opposition entre des individus et puis les autres, ça me questionne, parce que justement, cette question du sens de la vie ou du bonheur, je pense qu'elle peut s'articuler avec ça.
Qui serait donc relative à des types d'organisation sociale, des types de sociétés. C'est ça, en fait. Société individualiste ou société qu'on appelle holiste, si on veut employer des termes un peu abscons, enfin, des sociétés, on va dire, plus communautaristes.
Oui, moi, je me demandais si une existence réussie, ce n'était pas une existence vécue en accord avec ses valeurs. Et quelquefois, pour être en accord avec ces valeurs, on va au contraire au-devant de gros problèmes matériels, de réussite sociale, etc. Mais vivre, exister en accord avec ces valeurs, ça me paraît un paramètre important.
Merci. En priorité à celles et ceux qui n'ont pas encore pris la parole, pour que personne ne... ne soit frustré.
Merci. On parle souvent des valeurs. Moi, j'aimerais bien comprendre, parce que pour moi, c'est pas tout à fait clair dans ma tête, mais à partir de quel moment on distingue valeur et idéologie ?
Et donc, excuse-moi. Vous alliez jusqu'à dire que dire sur ce que Marie-France proposait au débat, que une vie réussie, si on reprend l'expression qui nous réunit ce soir, ça serait une vie qui serait non pas en adéquation, en accord avec nos valeurs, mais qui serait conforme à une idéologie. C'est ça que vous auriez en tête?
C'est plutôt ça, oui.
D'accord. Ok. Effectivement, il y a une vraie distinction. Il y a une vraie distinction. On peut peut-être creuser, si vous souhaitez.
Je casse le micro. Alors moi je pensais que ça dépendait beaucoup de l'environnement dans lequel on est. C'est-à-dire que on voit qu'aujourd'hui la réussite, par exemple, en tout cas la vision que j'en ai, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'être visibles, qui se prennent en photo, qui sont sur les réseaux, qui ont besoin d'être visibles aux yeux des autres. Donc en fait, leur réussite passe au travers de ce qu'ils renvoient et de ce que perçoivent leur environnement. Et donc, moi je pense que pour réussir, dans l'idée de réussir sa vie, donc réussir c'est quelque part répondre à des objectifs, un petit peu, et donc les objectifs, il y a à la fois les siens et ceux qu'on perçoit dans son environnement, en tout cas celui qu'on considère. Et moi je pense qu'on peut par exemple... dire qu'on a réussi sa vie si soi et son environnement, qui peut être sa famille, son village, ou en tout cas les gens qu'on apprécie et les, ou le milieu dans lequel on vit, ça peut être un pays, ça peut être plein d'autres choses, en fait on se sent en adéquation, et nous intérieurement, et vis-à-vis de l'environnement qui est le nôtre. Donc pour moi, voilà, c'est plutôt il y a le regard des autres dans le côté réussir qui est des objectifs, soit de ses parents, soit de dictates qu'on a accepté des autres ou de valeurs qu'on s'est données personnellement. Donc ça dépend beaucoup de l'environnement dans lequel on se cale, soit tout seul, on se juge tout seul, soit un environnement quel qu'il soit.
Merci. Bon, là, vous avez introduit à nouveau un nouvel élément. Hein. Il y a les valeurs, il y a l'idéologie, il y a les types de sociétés, individualistes ou plus communautaires, plus collectives. Et puis, ce que vous introduisez, c'est le rapport à autrui, en fait. Il y a le rapport de soi à soi, puis le rapport à l'autre, à travers peut-être une notion qu'on va, à mon avis, devoir creuser, qui serait celle de la reconnaissance. Peut-être qu'une vie réussie, c'est celle dans laquelle j'obtiens une reconnaissance, ou du moins j'obtiens la reconnaissance de celles et ceux qui, à mes yeux, comptent pour moi.
Alors, par rapport à la valeur, je pense qu'une vie réussie, c'est aussi, par rapport à nos aspirations profondes, être en accord avec nos aspirations profondes et ne pas dévier de ces aspirations, que ce soit justement la famille ou quoi que ce soit, qu'on essaye toujours de garder le cap avec ce qui nous anime au plus profond de nous-mêmes. Et bien sûr, ça peut être compliqué parce que, admettons qu'une personne horrible, genre dictateur, eh bien, ses aspirations profondes, bon, c'est de dominer le monde, mais il y suit et il va au bout. Donc en fait, il est en accord avec lui-même. C'est sûrement une personne. Quelle est sa valeur, la valeur de la personne? Ça. Mais alors si il va au fond de ses aspirations profondes, il a réussi sa vie. Et si, par exemple, une personne qui ne rêve que de bonté, etc., ben, un gros bisounours, quoi, et qui va au bout de ses aspirations, il va sûrement créer beaucoup de bonheur et du bien autour de lui. Et il aura été aussi au bout de ses aspirations. Donc, voilà, deux personnes ont réussi, mais bon, après, on peut ou pas juger de leur vie et de ce qu'ils ont apporté à la société.
Ouais, donc là, on change un petit peu de focal, mais vous insistez vraiment sur un point fondamental qui est est-ce qu'une vie réussie est relative à une perspective, à une représentation, la mienne, et auquel cas, finalement, il y aurait autant de vies réussies ou autant de vies qui me paraîtraient douloureuses qu'il y aurait de perspectives, qu'il y aurait d'individus. Donc, une sorte de relativité absolue. Donc, la vie d'un dictateur qui parviendrait au pouvoir et conquérir le monde serait tout aussi réussie que celle d'une simple ou d'un saint qui ferait le bonheur de l'humanité. Ou est-ce qu'au contraire, on peut se donner des marques, des repères universels, collectifs, sur lesquels on peut dire « Ok, très bien, ta vie de dictateur, ta réussite de dictateur, mais quand même, elle est moins réussie que celle de celui qui a fait le bonheur de l'humanité. » En gros, est-ce qu'une vie réussie est nécessairement relative à un point de vue, auquel cas, bah, tous les points de vue se valent, ou est-ce qu'au contraire, on peut accéder à une sorte d'universalisme, si on voulait employer des grands mots, d'universalité, à partir duquel on pourrait dire « Non, ta vie peut te sembler heureuse, mais elle n'est pas réussie. Non, Donald Trump, tu n'as pas réussi ta vie. » Ouais, je suis pas sûr d'un jour lui parler, et je suis pas sûr que si je lui disais ça, je pense que... vas-y, regarde, c'est toi le loser.
Moi, je voulais débattre sur le fait qu'il y a certains individus par rapport à des religions ou quoi qu'est-ce qui ne conscientisent pas le fait de réfléchir par eux-mêmes pour faire leur vie, par exemple. Il faut d'abord être libre pour moi un minimum et avoir un minimum de culture via la scolarité pour vivre et réussir à se questionner grâce à nos valeurs et les valeurs des autres qui nous entourent, pour réussir sa vie, tout simplement. Je parle dans les pays, par exemple, afghans, ou sinon certains pays où il y a des guerres, en Afrique, par exemple.
Oui, donc ça veut dire que, si je résume votre intervention, pour accéder à cette conscience, à ce sens dont, qu'on évoquait tout à l'heure, en gros, il faudrait avoir les conditions sociales qui le permettent, l'éducation, les structures sociales qui nous permettent finalement d'avoir le bagage suffisant pour conscientiser, pour réfléchir, pour penser sa vie.
Exactement.
D'accord, merci.
Moi, je pense aussi qu'il faut apprendre la vie par soi-même. Il faut... comment dire, faire face à des actions qui nous forgent nous-mêmes, notre avis personnel, pas forcément une éducation ou... voilà.
D'accord. Le rôle de l'expérience. Paraissait à part erreur. Ouais. Je crois que tu avais levé la...
Ce côté-là, c'était qui? Parce que
moi, je ne peux pas. Monsieur, ben non, mais il y avait toi.
S'il y a personne d'autre,
non. Ah non, mais.
J'ai déjà parlé une fois, donc c'est pour ça que je.
Non, mais. Non, monsieur, non.
Monsieur. Ah, c'est vrai, bah, allez-y, allez-y.
Monsieur, ah.
Bon. Comme vous voulez.
Moi, pour aller dans le sens de mademoiselle là-bas, au fond, je crois que ce qu'on peut entendre par avoir une éducation et un contexte social favorable, c'est aussi être libre. L'éducation, c'est quelque chose qui va aider à construire l'individu, la personne, pour la rendre libre. Et je pense qu'il n'y a pas de vie réussie sans bonheur et qu'il n'y a pas de bonheur sans liberté. Et pour essayer d'ouvrir un autre champ, peut-être plus large, si on essaye de trouver des critères objectifs, je crois qu'une vie réussie, c'est une vie dans laquelle on réalise des choses qui sont conformes à notre nature. Alors du coup, ça interroge la nature humaine, mais... je crois que l'homme est naturellement fait pour transmettre, et donc je pense qu'une vie réussie, c'est aussi une vie dans laquelle il y a de la transmission de la vie, la transmission du savoir, l'enseignement, l'éducation, et c'est une vie de relation. L'homme est un être social, donc un homme qui vit sans relation, et je ne pense pas qu'il puisse être heureux et réussir sa vie. Donc à mon avis, pour trouver des critères objectifs, il faut trouver les dimensions qui sont inhérentes à la nature humaine. Là, j'en ai cité deux, il y a la relation et il y a la liberté. Il y en a probablement d'autres.
D'accord, très bien. Donc, nous partageons tous une même nature. Et c'est à partir de cela qu'on peut estimer qu'une vie est plus ou moins réussie. Donc, mais tu voulais réagir à une intervention tout à l'heure, je crois. Mais...
Oh, non. D'accord. Je voudrais surtout préciser, réussir, ça suppose un projet. C'est autrement dit, le projet est réussi ou pas. Mais un projet, ça ne peut se formuler que dans un lieu et à un moment donné. Or, la vie a une durée qui nous promène de lieu et dans des moments différents. Donc, ça, c'est le premier élément. Et le deuxième, c'est réussir sa vie, ça, c'est l'individu qui agit. Mais je veux dire, moi, individu, je me retrouve vivant. Mais je détermine quoi dans le cadre où je me trouve. Et à partir de là, j'ai simplement à me situer, me semble-t-il, et à agir dans un cadre et un temps déterminé. Pourtant, je peux formuler des souhaits par rapport à ce cadre, à ce moment et à ce que je souhaite être. Et se pose à ce moment-là, me semble-t-il, le problème de la cohérence entre ce que je souhaite être et ce que je suis effectivement dans le lieu et dans le moment donné. Et il me semble que ce n'est, ça ne se, ça ne te passe pas forcément en termes de succès. Mais la réussite, c'est de s'interroger et de constater que, effectivement, j'ai pu être au mieux de ce que je pouvais souhaiter être.
Merci.
Bon, ça vient peut-être un peu tard parce que certains des points que j'avais ont été un peu soulevés. Parce que effectivement, je pense que la notion de liberté, qui a plusieurs acceptions, on peut voir différentes formes de liberté, mais elle a son importance dans la notion de pas forcément réussir sa vie, mais en tout cas la conduire. Parce que, et vous l'avez dit, en fait, on n'a pas choisi de vivre. On n'était pas, donc on ne pouvait pas faire ce choix, donc on n'était pas libre de faire ce choix, et cette vie, elle nous est imposée, et au début, on n'a pas grande prise sur ce qu'on en fait, ce qui est normal, parce qu'on a besoin des autres pour survivre. Mais au fur et à mesure que notre vie se construit, on gagne une liberté en tant que droit civique, mais aussi, et ça c'est peut-être une liberté qu'on ne gagne pas, mais qu'il faut conquérir, une liberté par rapport, et ça rejoint ce qu'on disait en partageant nos anecdotes sur les attentes de nos parents, sur les contraintes imposées par l'environnement. C'est-à-dire donc savoir s'affranchir de ces contraintes, ou de les embrasser si on est d'accord avec elles. Mais si on est en opposition avec ces contraintes, de se dire non, ce n'est pas ça que je veux faire, moi je veux faire ça. Mais ça pose ensuite une autre nuance par rapport, le monsieur avant moi a dit, à parler de ce qu'on est, de ce qu'on souhaite être, mais aussi ce qu'on peut être. Je peux avoir des rêves ou des désirs qui sont inaccessibles, je peux rêver de me faire, d'avoir une paire d'ailes dans le dos, bon, ça risque d'être un peu compliqué. Et aussi, les désirs et les rêves que je peux avoir, on a parlé des dictateurs, on n'a pas forcément besoin d'aller jusque-là, mais ce que je fais a un impact sur les autres. Donc ce que je peux faire, c'est aussi dans le « qu'est-ce que je peux faire pour accomplir ou réussir ma vie ?» dans le respect des autres, dans le respect des aspirations des autres, est-ce qu'il ne faut pas que je fasse attention à ce que réussir ma vie ne se fasse pas au détriment de la réussite des autres, ou des autres qui réussissent leur vie? Est-ce qu'on peut tous réussir notre vie, en fait?
Vous revenez à la question de la cohabitation possible, hein, des projets de vie, et vous prolongez un petit peu l'intervention précédente, hein, sur, finalement... une vie réussie, ça serait, vous me dites si je trahis vos idées, ça serait non seulement d'être en adéquation avec les valeurs qui nous animent, peut-être l'idéologie dans laquelle nous baignons, mais se sentir à sa place, là où on est, au moment où on l'est, et ne pas avoir ce sentiment de trahison par rapport soit à des espoirs qu'on a pu porter et qui, à nos yeux, sont avortés, soit par rapport à des capacités qu'on a dont nous manquons pour faire ce que nous voudrions faire. Donc finalement, on retrouve ici cette dualité de la capacité à faire ce que j'ai envie de faire et de la possibilité de construire ce projet de vie en harmonie avec les autres projets de vie, bref, la vie sociale.
Déjà se poser la question, réussir sa vie, c'est presque une chance. Je parle, dans certains pays, il y a des personnes qui se posent même pas la question. Eux, c'est au jour le jour, comment je me tire de la galère, Donc, je pense déjà de se poser la question, c'est déjà, faut avoir dans la tête que c'est vraiment une chance de pouvoir se dire, je veux vivre selon mes aspirations, je veux réussir ma vie. Il faut croire que même en France, on a un contexte relativement facile, mais il y a sûrement des personnes qui ne vivent que pour régler leurs problèmes et leurs galères, hein, ça aussi. Donc eux, après, réussir leur vie, c'est des préoccupations qui sont déjà assez lointaines pour eux. Et je voudrais aussi je suis un petit peu taquin, mais est-ce qu'il y a une personne ici qui peut lever le bras ceux qui ont réussi leur vie ou qui pense avoir réussi sa vie.
Attendons la fin. J'aime beaucoup la remarque de monsieur. Attendons la fin. Mais ouais. Oh, ça va.
Je vais essayer de synthétiser parce qu'il y a plein de choses qui viennent. Moi, il y a la question de la temporalité qui m'interroge parce que bon, déjà, il y a l'opposition réussir sa vie et être heureux. C'est vrai que réussir sa vie, enfin réussir, il y a la notion d'objectif, de projet, tout à fait. Et en fait, bah, parfois on ne sait pas vraiment quelles sont nos aspirations profondes. On se dit, ah, bah, tiens, j'aimerais bien faire tel truc. Et puis, arrivé là, on a objectivement réussi à peut-être devenir médecin. Mais en fait, fondamentalement, ça ne nous plaît pas. Ça ne nous rend pas heureux. Et au final, on peut un petit peu errer d'une chose à l'autre. Et peut-être même le fameux dictateur, il aura réussi à tyranniser tout le monde et que bah, peut-être qu'en fait, il n'en sera pas heureux. Et il y a quand même un décalage entre réussir quelque chose, on pense, enfin, est-ce qu'on pense vraiment nos aspirations, est-ce qu'elles sont vraiment bonnes pour nous, est-ce qu'elles vont vraiment nous remplir et tout. Je me demande si c'est peut-être même pas à la fin de sa vie qu'on saura si finalement bah, c'était plutôt bien ou pas, ou que ça avait du sens. Et par ailleurs, il y avait un article que j'avais lu, que j'avais trouvé assez intéressant, c'était sur le ressenti du bonheur. Et bon, il y avait des études, je pense, en psychologie sociale, qui évaluaient, en fait, qui demandaient aux gens, voilà, est-ce que ça vous a rendu heureux et tout ça, ou malheureux d'ailleurs. Et souvent, il y avait une période de 2 ans après un projet, par exemple, un projet de mariage ou un projet de, je sais pas moi, un nouveau boulot ou des choses comme ça. Et souvent, bah, pendant 2 ans, il y avait un pic de bonheur et puis après, ça revenait à une espèce de courbe à peu près moyenne. Et là où c'était aussi intéressant dans l'article, c'était qu'il n'y avait pas de différence entre le bonheur ressenti suite à un projet qu'on voulait réaliser, à savoir je veux me marier avec telle personne, par exemple, et le bonheur ressenti par rapport à une situation qui était imprévue. Dans cette situation, je n'ai pas pu, je ne sais pas moi, emménager dans tel pays. Finalement, j'ai fait autre chose. Et en fait, bah, je me sens aussi heureux en m'étant adapté ou réadapté à mes nouvelles conditions de vie. Et finalement, voilà, les aspirations de départ étaient différentes, mais pourtant, on a quand même réussi à trouver du sens à cette nouvelle forme, en fait. Donc, voilà.
Merci. Ce que je retiens, c'est que nous sommes des êtres temporels. Voilà, nous évoluons, nous. Ce qui était vrai hier ne l'est plus pour nous aujourd'hui, pas forcément, mais en tout cas, voilà. Et que nous sommes pris dans des métamorphoses, voilà, vraiment, voilà, dans des métamorphoses où finalement ce qui pouvait nous sembler être une vie réussie hier bah, nous semble aujourd'hui peut-être manquer de sens, tomber dans une sorte d'absurdité. Alors, tu évoquais peut-être des lois psychologiques, alors je serais incapable d'aller sur ce terrain parce que j'aimerais bien savoir plus, mais effectivement, il y a peut-être des lois psychologiques qui font que il y a des moments dans l'existence où on est plus ou moins enclin à concevoir sa vie comme étant heureuse, malheureuse, adéquate à ce qui nous anime profondément. Mais effectivement, ce qui m'animait à 20 ans n'est pas forcément ce qui m'anime à 50 ans. Voilà. Si on veut rester sur les lois psychologiques, il y a des courbes comme ça. Alors, c'est pas sur la vie réussie, sur le bonheur. Et lorsqu'on fait des sondages. C'est lié à quel moment vous sentez-vous heureux. Et on a toujours à peu près les mêmes périodes dans l'existence. Les périodes les plus critiques sont juste après les études, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, enfin, il y a une incertitude. La cinquantaine. Parce que voilà, il y a des choses qui se sont passées. On commence un peu à regarder derrière soi, on se dit, voilà quoi, j'aurais bien aimé
être un artiste, mais non, en fait, voilà. Voilà, on commence à nourrir peut-être quelques regrets, au sens. Et puis, par contre, l'âge le plus heureux, statistiquement, c'est le moment où, c'est étonnant d'ailleurs, hein, enfin, étonnant avec une certaine ironie, bah, c'est le moment où on est un peu libéré de la charge de travail, et puis on part à la retraite à 62 ans, à 64, pardon. Et voilà, et c'est le moment où finalement on retrouve peut-être quand même des aspirations fondamentales, on parle de liberté, etc. Au moment où bah, voilà, on a un peu la prise sur son existence, et on a l'impression que quelque chose peut pouvoir se construire ou se reconstruire. Donc voilà, ce sont des éléments psychologiques, je serais bien incapable de les approfondir. En tout cas, effectivement, je pense qu'il y a des lois quand même qui nous gouvernent, des lois de l'esprit. Mais...
Tout à l'heure, quand il a été demandé qui a réussi sa vie, quelqu'un a dit « attendons la fin ». Et ben, en fait, je ne suis pas sûr qu'il faille, parce que de la même manière que Mademoiselle vient de dire qu'on est des êtres temporels, qu'on a toujours un projet, on a dit réussir sa vie, ça suscite un projet, mais on peut réussir plein de projets dans sa vie, et on peut, je pense, réussir sa vie au quotidien, dans ses missions du quotidien, il y a des périodes fastes dans la vie où on est en train de réussir sa vie, on réussit sa vie tous les jours. Et puis il y a des périodes effectivement peut-être plus en creux, mais en reprenant mon propos de tout à l'heure de coller à ses aspirations et à ce qui fait la nature humaine, effectivement je pense qu'il y a des moments où on peut réussir sa vie presque au quotidien.
Merci. De la parole à celles et ceux qui n'ont pas encore pris, mais vous aussi. Bah, attends, il y a quelqu'un, oui, en bas.
Ah, d'accord.
Voilà.
Bon, c'est juste une boutade parce que. Par rapport à réussir sa vie, tant mieux si tout le monde pense réussir sa vie. Qu'est-ce que c'est crater sa vie, du coup? Justement, je cette étape-là, parce qu'on parle effectivement beaucoup de réussir sa vie, mais oui, l'échec, dans l'échec, on apprend énormément de choses. Et justement, dans l'échec, ça peut nous permettre en fait d'avancer autrement. Et pourquoi pas, lors d'un projet ou autre, ça va nous permettre d'accéder à la réussite. Donc, je trouve que réussir ou l'échec, rien ne m'empêche en fait de continuer son chemin de vie.
Ce qu'on apprend de ses erreurs, voilà, enfin, c'est l'expérience qui nous nourrit, et puis ça ouvre peut-être des alternatives auxquelles on n'aurait même pas pu imaginer. Enfin, ça nous permet de bifurquer, oui. Mais peut-être qu'il faudrait à ce moment-là échouer dans certains projets pour réussir sa vie, c'est ça? On va accepter l'échec pour réussir sa vie? Oui, madame.
Je pense aussi que dans la réussite de sa vie, s'il y a la notion de santé, on peut avoir être bien dans sa vie, d'un seul coup avoir un accident de la vie, c'est-à-dire avoir un accident tout court, se retrouver handicapé et d'autres choses, ou avoir aussi un accident de la vie à la naissance aussi. Voilà. Donc, la réussite, il faut la prendre différemment.
Oui, c'est ça, c'est l'environnement dont vous parliez, et puis ces données qui nous échappent,
voilà,
avec lesquelles on...
Ça nous tombe dessus, comme ça.
Avec lesquelles voilà. On compose.
Voilà.
Bon, avec lesquelles on compose, avec lesquelles on tente de composer.
Ça peut être une maladie aussi.
Oui.
Il y a eu plusieurs interventions. C'est intéressant. On parle de voir la vie. Donc, on a parlé de projet, on parle d'objectifs, on parle d'échouer. Et ça me fait penser à quelque chose. C'est pas du tout une référence philosophique, je suis désolé, mais en bon fan de jeux vidéo, je vais avoir une référence vidéoludique, à savoir Tetris, le jeu où les blocs tombent et il faut les faire disparaître en faisant des lignes. Ces blocs tombent à l'infini. Et donc, en fait, on ne peut que perdre à Tetris. Et on dit donc que le seul moyen de ne pas perdre, c'est de ne pas jouer. Et dans le cas de la vie et de réussir sa vie, on pourrait avoir quelque chose alors, d'un peu différent, mais quand on parle d'objectif, d'échouer et de projet, en fait, je pense qu'un des ingrédients, si je puis me permettre, c'est de se dire, en fait, il ne faut pas s'arrêter. C'est que même, c'est, on a dit, il faut apprendre de ses erreurs, il faut se relever de ses échecs. Et en fait, au moment où on pense avoir réussi sa vie, parce qu'on atteint ses objectifs, en fait, paradoxalement, c'est peut-être là qu'on rate quelque chose parce qu'on se dit bah, il n'y a plus rien à faire. Et donc, on a parlé des retraités, par exemple, il y avait des retraités, il y en a qui sont très heureux de ne plus avoir travaillé, mais il y a des retraités qui, une fois qu'ils ne sont plus au travail, ils se retrouvent désœuvrés. Et donc, en fait, c'est l'important, c'est donc de trouver quelque chose à faire, à continuer. Donc, pour reprendre mon exemple, il faut continuer à empiler ces blocs tout en effaçant les lignes, parce que sinon, on perd... meurt. Mais en fait, moi, ce que je voulais souligner, c'est cette nécessité d'accompagner le mouvement, parce que la vie, c'est un mouvement. On a démobilisé cette notion il n'y a pas longtemps. Et donc, il faut continuer, entre guillemets, à bouger. Il ne faut pas s'arrêter.
Merci. Monsieur, je vais encore parler, tu crois.
Oui, on parlait il y a quelques minutes de réussir sa vie en apprenant de ses échecs. On se posait la question, est-ce que pour réussir sa vie, il ne faut pas nécessairement passer par certains échecs? Est-ce qu'il y a des projets qu'il ne faut pas rater en fait, pour apprendre des leçons qui vont nous servir par la suite? Moi, je me pose des questions en fait, par rapport à ça. Ça pose aussi la question de... quelles souffrances sont acceptables en fait? De quelles souffrances est-ce qu'il faut absolument essayer de se protéger? Et quelles souffrances font, pour ainsi dire, partie de la vie et du coup seraient acceptables? Et je pense que c'est une question qui est vraiment très importante parce qu'on peut très bien tenir le discours suivant à quelqu'un qui souffre. Oui, tu souffres maintenant, mais les échecs que tu es en train de rencontrer maintenant en fait, vont t'apporter des leçons qui te seront utiles plus tard, alors qu'en fait pas du tout, cette personne va sans cesse rencontrer les mêmes souffrances, les mêmes échecs. Donc voilà, je trouve que ça pose cette question-là.
Et peut-être en revenir à ce que vous évoquiez de la question de la nature. Moi, j'aime pas trop parler de la nature humaine, parce que je ne crois pas trop ce concept, mais peu importe, mais... de nature humaine ou de conditions humaines. Il y a peut-être des souffrances qui sont universellement partagées, celles du deuil. Ben voilà. C'est notre lot commun. Ce n'est pas effectivement tel ou tel type de souffrance qui s'abattrait sur une personne. Et effectivement, il faudrait peut-être éviter toute forme de dolorisme. Ce dolorisme, ce culte de la douleur qui t'apprend, ce qui ne me tue pas me rend plus fort, mais en fait, non, pas toujours. Ce qui ne me tue pas m'affaiblit. Mais... me rend malade. Voilà. Et dans ces cas-là, la vie, c'est une longue suite de souffrances. Voilà. C'est pas toujours un échec à partir duquel je vais pouvoir me reconstruire.
Nous parlons de réussir sa vie. C'est aussi par rapport à un mindset qu'on a en nous, par exemple, parce que si on est triste à chaque fois ou si on est. On pense toujours au passé, ben on va jamais pouvoir aller de l'avant et réussir sa vie. C'est un mindset, ce que j'ai déjà dit. Et c'est aussi...
Excusez-moi, c'est quoi un mindset? Non mais je pose la question de manière naïve.
C'est quelque chose en nous qui nous permet d'aller plus haut, par exemple, à un objectif. Par exemple, on gravir une montagne, par petit pas, on va gravir la montagne, on va pas être... il faut un mindset pour gravir la montagne. Et du coup, le mot réussir, moi je trouve que c'est aussi un mot très dur, parce que chaque personne n'a pas la chance de pouvoir être libre. On tourne un petit peu en rond, mais c'est... du coup, c'est une bénédiction de pouvoir penser par soi-même et faire les choses qu'on a envie de faire. Et aussi, il faut être optimiste pour réussir sa vie, entre guillemets.
Merci. Je garde la notion d'optimisme.
Je peux dire un mot ?
Oui. Oui.
Donc, le monsieur, tout à l'heure, disait que au Tetris, il ne faut surtout pas s'arrêter, parce que s'arrêter, c'est la fin. Et bon, ben moi, je pense que les choses ne s'arrêtent jamais vraiment. Il y a toujours, notamment dans les espaces quantiques, des interactions, comme dans les particules. Bon, c'est juste un exemple. Bon, je pense aussi à la mécanique des fluides, d'une façon générale. En fait, le truc, c'est que il faudrait surtout ralentir, je pense. On va beaucoup trop vite. Et c'est pour ça qu'on souffre. Parce que toute vitesse implique une forme de chaos empirique qui génère de la souffrance.
Voilà. Ouais. Donc une vie réussie, ça serait une vie plus lente.
Ouais.
Ouais, c'est intéressant cette idée d'accélération qui génère de la souffrance et l'impression de ne pas avoir prise sur ce que l'on fait, sur ce que l'on est.
D'échec tout à l'heure, et ça me fait penser à une citation de Paul Valéry qui disait tout acte manqué est un
échec. Parlez bien dans le... comme ça.
Ouais, tout acte manqué donc est un échec réussi.
Et en fait, tout acte manqué est un échec réussi.
Ouais.
Ok, ouais.
Paul.
Ouais.
Du coup, à condition effectivement d'échouer. C'est-à-dire qu'il faut toujours entreprendre. Et donc, faut pas cesser, faut pas s'arrêter. La réussite est possible à condition de faire des efforts, de faire le premier pas, en fait. C'est le premier pas qui est toujours un peu difficile.
On parlait bien comme ça.
Ah ouais. Et du coup, alors, on peut redéfinir la réussite comme étant une succession d'échecs. C'est un peu bizarre. Mais voilà, à condition qu'il y ait une réussite au bout. Mais, voilà, pour articuler l'échec avec la réussite.
Donc on retrouve quand même cet optimisme, enfin cette volonté d'entreprendre.
Oui.
Il y a un autre homme célèbre qui parlait justement des échecs successifs. C'est pas l'objet, mais ça me fait penser à Churchill, qui disait « Le succès, c'est d'aller d'échec en échec, mais en gardant son enthousiasme. » Et il en a ramassé des sérieux. Enfin,
bon. Voilà. C'est bon, moi, je ne connaissais pas ce mot d'esprit.
Ah bah, du coup, j'en profite rapidement.
Non, allez, une troisième citation, allez.
Non, une dernière citation.
Donc, Valérie, Churchill et
Mao Tse-tung. On parlait de dictateur. En fait, il a dit de défaite en défaite jusqu'à la victoire. Et donc, la réussite, ce serait peut-être d'échec en échec jusqu'à la réussite.
Voilà. Concernant Mao, ouais.
Merci. Moi, concernant l'échec, l'échec, il peut apprendre quelque chose à condition d'en sortir. L'échec, il est nourrissant s'il a une issue. Quand on se sort pas de son échec, tout à l'heure a été demandé qu'est-ce que c'est qu'une vie échouée. Je pense que quelqu'un qui fait des actes qui le rendent malheureux jusqu'à en mourir, quelqu'un qui se supprime, c'est une vie ratée quand même. C'est pas le but. Et ben voilà, donc l'échec, oui, à condition d'en sortir, ça nous renforce. On a appris parce que on a vu ce qui allait pas et qu'on a réussi à trouver un autre axe.
Donc les vertus de l'échec, oui, il y a des vertus de l'échec. Mais finalement, l'échec n'a de valeur que dans ce qu'il l'accompagne, dans ce qu'il provoque.
Oui.
C'est ça, c'est pas l'échec lui-même qui a une vertu.
Exactement.
C'est ce qu'il provoque.
On peut pas, de toute façon, on peut pas ne pas échouer dans la vie. Je veux dire, même apprendre à marcher, c'est aller d'échec en échec jusqu'à y arriver. Mais celui qui n'arrive jamais à marcher parce que tous les jours il tombe, je vois pas où est le succès. C'est, en fait, il faut qu'il y ait un apprentissage de « Ah oui, en fait, quand je me déséquilibre, je tombe en avant, mais je dois me déséquilibrer. » Voilà. Il faut sortir de cet échec, sinon l'échec, il est juste plombant et il rend malheureux. Et une vie malheureuse, c'est pas une vie réussie.
Ça, c'est une vraie question. Enfin, je pense qu'on tourne un petit peu autour de cette distinction. Enfin, en tout cas, c'est ce qui fait écho dans mon esprit. C'est, est-ce qu'on peut vraiment parler d'échec lorsqu'on parle de la vie? Ou est-ce qu'on doit vraiment, ou d'échec ou de réussite, hein, qu'on voit la version positive ou négative, mais est-ce qu'on peut vraiment placer quelque chose, une équivalence entre bonheur-malheur et échec et réussite? Autrement dit, est-ce qu'on peut échouer sa vie? Je peux échouer à marcher, je peux échouer à jouer à Tetris. Je n'ai jamais joué, donc je ne peux pas connaître l'échec. Mais est-ce qu'on peut vraiment échouer? Est-ce qu'on peut échouer dans sa vie? On peut être malheureux, mais est-ce que ça signifie que c'est un échec? Je ne sais pas, enfin, je pose la question. Je n'ai pas de réponse, hein, vraiment.
Si je prends l'exemple de l'ermite dans sa grotte, qui a décidé de vivre de cette façon-là, est-ce qu'il a loupé sa vie ou est-ce qu'il a réussi sa vie? C'est un choix de vie dans sa grotte en tant qu'ermite. Voilà, c'est simplement ma question.
Ouais. Il ne prend pas de risque. Enfin, j'ai la question en suspens pour l'Assemblée aveugle. Monsieur, non? Oui, oui. Et puis, monsieur, oui, on donne la parole.
Je rebondis un peu sur ce que tu disais. On parle d'échec, de réussite. Moi, j'ai envie de passer ça sous un autre angle, quel espace de liberté on a quand on est animé de pulsions, de désirs, d'insatisfaction permanente? Est-ce que c'est pas conquérir un espace de liberté pour être soi, de s'affranchir du désir de son père d'être médecin, ou du désir d'un parti politique, de tous ces millions de membres qui vous poussent jusqu'à devenir un dictateur? Voilà, donc on revient à l'ermite dans sa grotte, qui reste centré sur lui et qui n'est plus, c'est de la philosophie orientale, hein, voilà, et qui n'est plus, on va dire, dans l'énergie des autres, mais dans sa propre énergie de vie. Alors, est-ce que ces gens atteignent la plénitude? Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas un ermite, parce qu'effectivement, il faut vivre en relation avec le monde, avec son époque. Voilà, c'est une question que je me pose aussi. Merci.
Je garde la notion d'énergie. Hein. Voilà. Ne plus être dans l'énergie des autres, mais être dans sa propre énergie.
Oui, est-ce qu'on peut pas dire que...
Vous parlez bien dans le micro pour que tout le monde puisse vous entendre, monsieur.
Oui, je pense que la vie, c'est une adaptation. On est dans un système... Et puis, on a affaire à un tas de contingences. Et à partir de là, est-ce qu'on peut parler d'échec ou de réussite? Simplement, on s'adapte, on est obligé de faire avec ce qui nous entoure.
Oui, entendu. Alors là, ce qu'on a peut-être envie d'ajouter, c'est que agir, c'est pas réagir. S'adapter, on est plus dans l'ordre de la réaction. J'ai encore le texte de Merleau Ponty qui me vient à l'esprit, là, celui dont je vous parlais très rapidement tout à l'heure. Apparemment, les animaux non humains s'adaptent et réagissent à des conditions qui leur sont données, environnementales, physiques, physiologiques, peu importe. Nous aussi, évidemment, nous adaptons. Mais dans cette préséance que l'on accorde à l'homme, qui est son indiscutable, nous réagissons, mais nous agissons. Et c'est-à-dire, agir, c'est, vous parliez tout à l'heure de la capacité d'entreprendre, c'est-à-dire d'être sui generis, d'être à soi-même sa propre cause, finalement d'être un point d'origine à partir duquel un projet de vie va se construire. Et peut-être que là, on dépasse, vous voyez, la simple adaptation à ce qui m'est donné. Effectivement, on est tous en train de composer avec ce qui nous est donné, avec un héritage familial, avec un héritage social. Personne n'a décidé de naître à cet endroit du monde, dans cette famille, à cette époque, avec une planète qui part en vrille et 4 degrés à la fin du siècle. Personne n'a choisi ça. Et donc on s'adapte. Mais là, pour le coup, est-ce qu'on est encore dans une vie réussie, une vie qui ne serait pas réussie? Peut-être qu'on peut parler d'échec ou de réussite lorsqu'on passe de l'adaptation à l'action, c'est-à-dire lorsqu'on est à soi-même, finalement, sa propre énergie, lorsqu'on impulse des choix, lorsqu'on provoque des choses, lorsqu'on trace un chemin de vie. Tout simplement, enfin là c'est des grands mots, mais dans le domaine professionnel, dans le domaine affectif, dans le domaine politique, dans tout ce qui nous lie alors, à la nature, humaine et non humaine.
Oui, bon. On parle de vie réussie, et moi je suis un très vieux monsieur, et ce qui m'intéresserait, c'est de savoir ce que c'est qu'une mort réussie.
Vous avez un très très bel article dans l'avant-dernier numéro de Philosophie Magazine. Voilà, donc celui du mois dernier. C'est ce que je disais hier, en fait. Et la question, c'est celle-ci, c'est qu'est-ce qu'une mort réussie? Et la réponse qui est donnée par Cynthia Fleury, une philosophe qui médite beaucoup ces questions, elle rejoint un peu la question de ce soir, c'est qu'une mort réussie, c'est une mort dans laquelle l'individu, jusqu'au bout, a l'impression d'avoir pris sur son existence et a l'impression d'avoir vécu la vie qu'il souhaitait vivre. Lire, donc, Cynthia Fleury dans Philosophie Magazine, il y a un mois.
Je pensais le moment de la mort, c'est un peu le juge de paix, quand même. Parce que, imaginons une personne dont la réussite a été d'amasser un gros magot, et il est en train de mourir, et puis tout d'un coup, il se dit « Ah là !» On dit « Je vais mourir, mais mon magot, qu'est-ce que je vais en faire ?» Et puis il se dit « Mais j'ai complètement raté ma vie, en fait. » Ça, c'est horrible.
J'ai l'impression d'être dans l'avare. Ma cassette. Où est ma cassette?
Réussir sa vie, c'est un grand mot. On parlait d'échec. Et l'échec mène à la réussite, aussi émotionnellement parlant, parce que si on réussit à chaque fois, on aurait une dopamine, on s'ennuierait, et du coup, grâce à l'échec, ça dépend quel échec, nous pouvons réussir notre vie différemment. Parce que chaque chose est un choix, en fait, et avec les choix qu'on fait, personnels, on peut réussir notre vie. S'il n'y a pas d'échec, parce que sinon la vie serait trop monotone, moi je pense.
Ouais, cette phrase de Rousseau, citation pour citation. Rousseau dans Nouvelle Héloïse qui dit ça tient en trois mots, hein, le bonheur m'ennuie. Le bonheur m'ennuie. Voilà. Il ne faut surtout pas être heureux. Merci. Surtout, c'est bien d'être triste sur la fille.
Bon, j'ai pas de citation pour continuer, hein, désolé. La question, enfin, par rapport à la question que tu posais tout à l'heure sur la différence entre réussir ou pas réussir, être heureux ou pas être heureux, j'ai l'impression qu'il y a un jugement de valeur dans le fait de dire qu'on n'a pas réussi telle ou telle chose dans la vie, notamment justement par rapport à la notion de projet, et que être heureux ou malheureux, ce serait plus un état. Donc déjà, je trouve qu'il y a deux choses différentes. Et après, voilà, il y a à quel endroit on est, qu'est-ce qu'on a vécu dans notre vie, de traumatismes, de choses plus ou moins difficiles, d'échecs à réussir à dépasser, ou d'échecs qui sont très trop douloureux pour être dépassés, en tout cas tout seul. Et bien, pour faire une psychothérapie depuis plusieurs années, je trouve que faire un travail sur soi, en fait, et réussir à, bah, du coup, analyser un petit peu toutes les choses qui sont, dont on pourrait dépendre, en fait, essayer de sortir un petit peu de toutes les inclinaisons qui sont dues à notre éducation, à notre famille, à tout un tas de choses, aux obstacles de la vie, en fait, on peut changer aussi le regard qu'on a sur ce qu'on a vécu, sur ce qu'on vit aujourd'hui. Et du coup, justement, par rapport aux nouveaux obstacles, avoir une manière de se positionner, peut-être prendre les choses avec un peu plus d'humour, par exemple, un peu plus de décalage, et du coup, tendre plus aussi par notre état d'esprit à avoir peut-être un positionnement un peu plus positif ou avoir plus de chances d'être heureux parce que on a fait ce travail sur soi-même et on est plus solide en fait d'une certaine manière. On a des bases, de développer une espèce de solidité par rapport aux événements de la vie et d'être un peu plus résilient par rapport à ça.
D'avoir un peu plus la prise sur son existence.
Ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait que dans la vie, on était toujours obligé de s'adapter. Parce que vous avez fait une distinction entre s'adapter et puis vous avez parlé d'agir. Mais même quand on agit, il y a quand même un retour, il y a un feedback à chaque fois. Donc, pour moi, on est sans cesse en train de s'adapter.
Entendu, je suis d'accord avec vous.
Oui, par rapport à toutes sortes de choses qui ont été dites, je pensais que, est-ce que finalement la réussite de sa vie, c'est pas juste une construction intellectuelle ? Et le fait de faire un travail sur soi, c'est en fait s'adapter peut-être, mais aussi construire un schéma qui fait qu'on va se dire j'ai réussi ma vie ou j'ai raté ma vie, mais finalement, est-ce que ça nous empêche pas, à un moment donné, simplement de réussir sa vie juste parce qu'on profite de la vie ? Est-ce que c'est à force de... Il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure penser par soi-même, avoir des bases et tout un tas de trucs, c'est en doute, mais je dis pas l'imbécile heureux, mais est-ce que à trop penser ce que ça serait la réussite, qu'est-ce qui ferait qu'on a réussi par rapport au regard des autres, par rapport à soi-même, par rapport à des exigences, par rapport à de la valeur qu'on donnerait à des choses et à pas d'autres, est-ce que finalement on se met pas des hypothèques à réussir sa vie parce qu'on n'est plus dans le ressenti de se sentir bien dans sa vie.
Enfin, l'idée aussi qui est sous-jacente. Vous m'entendez, non ? Avec l'idée qui est, me semble-t-il, sous-jacente à ton intervention, c'est que non seulement ne pas être effectivement dans les injonctions des autres ou de soi-même, que l'on s'impose, comme une sorte de carcan, en fait, évidemment, mais aussi ce rapport au temps, c'est-à-dire. Il y a une temporalité quand même dans la question qu'est-ce que réussir sa vie. On a l'impression que la question, enfin en tout cas c'est la façon dont on l'a traitée depuis maintenant pratiquement toute la soirée, c'est une question qui nous appelle à faire un bilan. On regarde derrière soi, on se dit ah bah alors comment est-ce que je peux juger ce que j'ai vécu, ce qui s'est passé pour moi. Là ce que tu suggères c'est aussi l'idée de d'avoir prise sur le temps présent. C'est-à-dire d'essayer de mettre un peu à distance toutes ces injonctions qu'on nous a données ou qu'on se donne, pour essayer de carpe diem, c'est un peu un grand mot, enfin c'est un peu, voilà, mais voilà, enfin, en tout cas d'avoir une jouissance de ce qui est et donc pas de ce qui aurait pu être, ou de ce qui a été mais qui est perdu. Mais ce que j'aurais envie, c'est un élément nouveau que j'apporte, est-ce qu'une vie réussie, ça pourrait pas aussi se penser dans le temps à venir? Peut-être que la vie réussie, c'est celle dans laquelle il y a des éléments qui m'animent et dans lesquels je suis impatient de vivre, de satisfaire, de construire. C'est pas forcément j'attends le week-end des vacances, enfin, ça peut être ça d'ailleurs. Effectivement, une perspective dans laquelle finalement l'avenir semble bloqué ou répétitif, vous parliez de monotonie tout à l'heure, c'est peut-être aussi une vie qui me semble m'échapper. Enfin, peut-être que la vie réussie, ça se conjugue à l'avenir et pas simplement qu'au passé.
Oui, bon, avec tout ça, je me dis, parce que j'ai entendu, est-ce que c'est pas plutôt un concept ou une réflexion de, je dirais, parce qu'on vit dans un pays libre, c'est une réflexion de, je dirais, d'une conception liée au fait qu'on met l'individu en avant, hein, qu'on a une conscience, qu'on vit dans un pays où il y a une conscience individuelle et on nous incite à avoir une conscience individuelle, alors qu'il y a des pays où effectivement c'est la conscience de groupe qui prime. Est-ce que les gens qui vivent, par exemple, enfin, j'imagine, hein, en Chine par exemple, qui vivent plutôt par rapport au groupe, est-ce que c'est pas le, est-ce que, quelle est leur conscience individuelle, est-ce qu'elle est satisfaite parce qu'elle répond à la conscience du groupe, enfin bon. Et moi je me dis que voilà, si on peut avoir cette réflexion là aujourd'hui, c'est parce qu'effectivement on est dans un pays où on est tourné vers l'individu, la valorisation de l'individu, et que du coup on se pose la question, bah oui, voilà, est-ce que j'ai réussi ma vie parce que je peux me poser cette question, et parce que on est aussi dans un pays où il y a une liberté d'expression.
Effectivement, c'est l'expression d'un individualisme, oui, au sens propre.
Oui, ouais. Oui, l'excès de l'individualisme, peut-être aussi.
Je ne sais pas ce que c'est qu'une. Ce qui se passe dans la tête d'un Chinois. Par contre, pour avoir lu un petit peu d'anthropologie, Philippe Descola, qui est un anthropologue assez célèbre, et qui a vécu et travaillé en tant qu'anthropologue longtemps auprès des Achuars, qui sont des Indiens d'Amazonie, enfin des Indiens de l'Amazonie, évoque un peu ce que vous dites. C'est-à-dire que pour. Il évoque sa surprise, en tout cas la surprise pour le lecteur que j'étais, il dit que finalement l'Achuar ne se pense pas comme un individu. Et que. Une journée, elle ne parle pas de vie réussie, mais une journée réussie, c'est quand même celle dans laquelle le groupe a réussi à chasser le jaguar, à ramener des vers de je ne sais quoi, et à pêcher tel ou tel poisson, point. Voilà. Et qu'effectivement, c'est ça l'ethnocentrisme, mais on plaque nécessairement la logique individualiste qui est la nôtre, une société dite développée. Sur des sociétés pour lesquelles ça ne fait pas sens, effectivement. C'est pas une question. La question qu'on se pose ce soir, c'est pas la question qu'un lâcheur pourrait se poser. Ça n'a pas de sens.
Une petite citation. c'est Mark Twain qui a dit deux jours les plus importants d'une vie sont le jour de votre naissance et le jour où vous savez pourquoi. A priori, le jour où l'on sait pourquoi nous sommes nés, alors. Nous avons réussi notre vie parce qu'on sait pourquoi en fin de compte on est ici. Ouais, c'est très profond, j'aime bien.
Très référent, merci. Mark Twain, c'est ça ? Je ne connaissais pas cette très très belle citation. Mais on revient un peu à la vie et l'existence dont je parlais d'une manière plus directe. Il est bientôt 20h35, je ne sais pas si vous avez encore des. Bon, n'hésitez pas, voilà. Enfin, des éléments apportés à notre construction collective.
Alors, j'ai pas de citation et pas d'autres jeux vidéo à évoquer, mais la notion d'ennui qui a été soulevée, je trouve que c'est très intéressant, surtout dans la mesure où on a aussi parlé de réussir sa mort. Pour certaines personnes, certains croyants, donc réussir sa mort, ce serait aller au paradis, et c'est vrai que dans mon entourage, j'ai souvent eu l'occasion de parler de religion et des textes, notamment des textes de la Bible, enfin des religions abrahamiques, et beaucoup plaisantaient en disant que paradis, on a quand même l'air de s'ennuyer, quoi. C'est bien beau le bonheur, mais c'est un peu plat, quoi. Et donc, partant de là, je me demandais réussir sa vie, c'est faire en sorte effectivement de ne pas s'ennuyer, de faire en sorte qu'il y ait toujours de l'intérêt à quelque chose, de trouver des choses à faire, Donc, on a parlé d'objectifs, mais ce n'est pas forcément uniquement trouver des objectifs à atteindre, mais savoir garder son esprit occupé. Certes, le laisser vagabonder de temps en temps, c'est bien, parce que l'imagination, on dit, c'est tout un art de savoir faire rien. Parce qu'effectivement, quand on imagine, on occupe notre esprit, en fait, et on ne s'ennuie pas. Et par contre, quand on s'ennuie, et ça me refait penser à ce que je disais sur les retraités qui ne savent plus quoi faire une fois qu'ils n'ont plus de travail, en fait, c'est là où notre vie, on commence à échouer, et c'est très compliqué d'apprendre de cet échec et de se relever, c'est on se perd dans cet ennui, on se perd dans notre vie, et en fait, c'est presque comme si on ne vivait plus. On est presque un peu déjà mort.
Merci. Monsieur, vous aurez le dernier mot.
Donc le dernier mot, attention. ce que vous venez de dire me rappelle quelque chose que vous avez dit un peu plus tôt sur le bonheur, c'est ce qu'on va faire, en fait. C'est la perspective de la vie qu'on va mener plus tard. Et vous disiez à l'instant que l'idée d'un paradis où on serait tout le temps heureux, ce serait très plat. Et moi, je trouve que ce qu'on touche un peu du doigt avec ces déclarations, c'est la nature du désir aussi. Peut-être qu'une vie, une vie malheureuse, du coup, non, ce serait une vie où on ne désirerait plus. Parce que le désir, justement, c'est ça, c'est le manque, en fait. On peut désirer que ce qu'on n'a pas. Donc, du coup, peut-être que le secret pour être heureux, quoi, ça serait de trouver sans cesse de nouveaux désirs, quoi, des choses à poursuivre. Et en même temps, je ne sais pas, parce que le désir, c'est frustrant, et c'est aussi ce qui nous cause de la peine, quoi. Donc, quand ils sont frustrés, quand ils ne sont pas assouvis. Donc, voilà. Mais ça me faisait penser, en tout cas, à la nature du désir, ce côté où il faut briser la monotonie, en fait, où il faut poursuivre quelque chose.
Rousseau également, hein. Malheur à qui n'a plus rien à désirer. Il perd, pour ainsi dire, tout ce qu'il possède. Voilà, on érige nos désirs. Alors, je ne suis pas sûr de pouvoir faire la synthèse, c'était vraiment très très riche. Juste trois petits mots. D'abord, je partirai d'une... J'hésitais un peu à le faire, mais d'une anecdote personnelle. Il se trouve que au-delà des cours que je donne dans le secondaire, j'interviens assez régulièrement auprès des infirmières et des infirmiers d'Orléans en formation. Et puis, à ce titre, j'ai eu l'occasion de croiser des soignants, des médecins, etc. Et puis, c'était l'an passé, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails de ma vie, mais je parlais avec un docteur, une doctoresse en l'occurrence, qui travaille dans l'unité de mobile de soins palliatifs du Morin. Et donc qui accompagne les personnes en fin de vie. Et elle me disait, enfin on parlait de travail, etc. Enfin, moi, si mon père était malade à cette époque. Et elle me disait, mais tu sais, sur les personnes que je vais voir, elles ont souvent accompli plein de choses. On a des chefs d'entreprise, dont la réussite matérielle est indéniable. Voilà. Des belles maisons, etc. Et puis même, au-delà même de cette réussite matérielle, ils ont réussi des projets. Et puis, il me dit souvent ce que ces personnes nous disent, mais c'est qu'ils n'ont pas assez vu leurs enfants. Et que finalement, ce sur quoi elle pointait un peu elle mettait un peu l'accent, c'était sur cette distinction assez classique, hein, mais entre l'être et l'avoir. Est-ce qu'une vie est réussie, c'est une vie dans laquelle je possède des biens, personne, de la reconnaissance, c'est important. On se construit, vous l'avez dit, vous avez raison de le dire, dans la reconnaissance. Ou est-ce qu'une vie réussie, mais c'est pas un ou, parce qu'en fait le ou et le et vont ici ensemble, mais où est-ce qu'une vie réussie, c'est une vie dans laquelle je suis celui ou celle que j'avais ou que j'ai ou que j'aurai encore l'intention d'être. Et elle me disait, voilà, j'avais accompagné très récemment un monsieur qui écrivait, en disant voilà,
j'ai fait, voilà, j'ai construit 3 boîtes d'entreprise, je suis millionnaire, etc. Mais j'ai pas vu mes enfants grandir. Et finalement, est-ce qu'il a réussi ses projets? Ben oui. Est-ce qu'il, au moment où il va quitter ce monde, est-ce qu'il a l'impression d'avoir réussi sa vie? Ben, pas forcément. Voilà. Donc on est toujours dans cette ambiguïté finalement entre les projets qu'on mène et qui nous nourrissent, hein, qui nous construisent, et puis finalement le regard, vous parliez à la fin là, de représentation, de perception, du regard qu'on porte. Parce qu'effectivement c'est le regard que ce monsieur, que ce monsieur porte sur sa vie, enfin en tout cas sur certains moments de sa vie, certains épisodes de sa vie à ce moment-là, mais peut-être qu'auparavant... il était très bien, il était en adéquation avec ses valeurs, et peut-être que s'il avait eu la chance d'aller un peu plus loin dans son chemin d'existence, il aurait eu encore un autre regard. Et finalement, pour en rester, je vais essayer de terminer par une note positive quand même, mais, pour en rester quand même sur cette note négative, en fait, on peut se dire que il n'y a pas de vie réussie. Toute vie est par définition un échec. C'est comme une sorte de Tetris sans fin. Si je commence à jouer à Tetris en espérant en terminer, ben je n'y arriverai pas. Et donc, en ce sens, la vie est un échec. C'est Pascal, le philosophe, Blaise Pascal, le philosophe du 17e siècle, qui disait que, finalement, c'est effrayant, mais effrayant de réalisme, en disant, mais voilà, vous êtes roi, vous êtes prince, c'est un discours qu'il adressait aux grands de ce monde, de son époque, là, au 17e siècle. Et puis, ben voilà, vous allez décéder... on vous mettra un peu de terre sur la tête, et en voilà pour jamais. Voilà. Donc une sorte de rappel à l'humilité, à la vanité, en disant, mais finalement, tout ce que vous allez entreprendre, ce que vous allez construire, tous ces châteaux là que vous allez édifier, toutes les Trump Towers là, que vous pourrez avoir à New York, finalement, un peu de terre sur la tête, et puis voilà. Et qu'est-ce qu'on gardera de vous? Alors pour quelques célébrités, oui, on en parlera encore quelques siècles plus tard, mais on en parlera sous forme de clichés, mais qu'est-ce qu'on gardera d'une personne? Au bout de quelques générations, bah, pas grand-chose, sinon un nom, un prénom, une date de naissance et une date de décès dans un arbre généalogique. Et donc, en ce sens, oui, la vie est forcément un échec. Mais ça ne signifie pas que l'existence soit un échec. Et là, c'est peut-être la note, pas forcément pour terminer sur une note positive, au sens où je vois pourquoi il faudrait être positif, hein, mais parce que je crois profondément, je pense qu'une vie réussie, effectivement, c'est une vie où on tente d'être en adéquation avec ce qui nous anime profondément, sur le plan affectif, sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan moral, sur le plan sexuel, sur le plan, enfin voilà, sur tous les plans, sur le plan environnemental, en sachant que tout ça évolue et qu'effectivement, ce qui me rend heureux aujourd'hui, ou ce qui pour moi peut être digne de succès, enfin estimé comme un succès aujourd'hui, pourra peut-être être considéré comme un échec demain, de voir ce monsieur. Mais pour terminer par une référence de nouveau, j'ai envie de faire référence, c'est très célèbre, hein, au mythe de Sisyphe. Vous connaissez ce mythe grec, Sisyphe est condamné par Zeus pour l'avoir défié, à devoir éternellement... porter à bout de force, à bout de bras, sur son épaule, un énorme rocher au sommet d'une montagne. Et alors il est issu, sang et larmes, enfin bref, c'est un supplice éternel. Et puis une fois qu'il a porté ce rocher au sommet, le rocher retombe et le lendemain il doit recommencer. Et Camus dit, mais finalement, le mythe de Sisyphe, c'est nous, c'est notre vie. Nous sommes condamnés une sorte de vie absurde, voilà, comme ça, qui n'a pas de sens, qui apparemment n'a pas de sens, qui apparemment a dénué de sens, à tous les jours nous lever, tous les jours entreprendre, tous les jours finalement plus ou moins réussir, et c'est reparti, etc., jusqu'à ce que mort s'en suive. Et finalement, voilà, Camus interroge le caractère absurde, la vanité de notre existence. Mais il termine son mythe de Sisyphe, alors il commence, excusez-moi, avant la fin, il commence le mythe de Sisyphe, par cette phrase que vous connaissez sans doute, elle est très célèbre, Camus écrit « Il n'y a qu'une question philosophique qui vaille la peine d'être posée, c'est celle du suicide. » Parce que c'est celle qui pose la question fondamentale « Quelle vie vaut-elle la peine d'être vécue ?» Il y répond finalement,
Mais on y répond tous à cette question tous les jours. Tous les jours, on redonne oui à la vie. On pourrait tous les jours se donner la mort, et puis tous les jours, on est là. Et finalement, on y répond de manière absurde, et puis je reviens à mon mythe de Sisyphe. Donc ça, c'était le début de l'essai, et puis il termine son essai, ce fameux mythe de Sisyphe, en imaginant, ben voilà, Sisyphe qui, ça y est, il a peiné, son rocher est de nouveau retombé, et lui-même dévale la montagne pour revenir dans la vallée. Et Sisyphe dit, mais il faut imaginer Sisyphe heureux. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Et alors, pourquoi est-il heureux? Il termine là-dessus. Alors, il vous laisse un petit peu en suspens. Hein, mais, alors, il y a plusieurs hypothèses, mais peut-être que il ne parle pas de vie réussie de Sisyphe, il parle de bonheur. Peut-être que le bonheur de Sisyphe vient de ce que, précisément, premier point, il accepte la vanité et l'absurdité de toute vie. Nous ne sommes pas des dieux, et au paradis, je n'en sais rien. On verra. Bref, il accepte finalement les limites et les conditions de notre existence, de notre condition humaine, de notre nature humaine. Et puis, il tire son bonheur, non seulement d'avoir accepté cela, de l'avoir compris, mais de ce qu'il a entrepris dans cette limite-là. C'est-à-dire que le bonheur vient précisément de la tâche qu'on lui a signée, mais de laquelle il s'accommode, avec laquelle il compose, avec laquelle il s'adapte, dit monsieur. Finalement, de porter ce rocher. Se porter ce rocher, bah, c'est notre boulot, c'est notre famille, enfin, bref, c'est notre vie de tous les jours. Et finalement, je tire mon bonheur, non pas de ce que j'aurais pu accomplir, voilà, c'est pas forcément un regard vers le passé, mais c'est un regard vers le temps présent. Je porte ce rocher, là, maintenant, et il y a des choses à en tirer. Demain, je le porterai encore, il y a encore du désir, et c'est peut-être ça qui nous anime, et qui nous rend vivants. Je ne sais pas si c'est une vie réussie, je ne sais pas si c'est une vie... Qui est raté. Moi, personnellement, je ne me retrouve pas forcément dans ces termes-là de réussite et d'échec pour la vie. En tout cas, c'est sûr qu'il y a des vies malheureuses, c'est sûr qu'il y a des vies heureuses, c'est sûr qu'il y a des vies dans lesquelles on se sent en accord avec soi-même, des vies dans lesquelles qu'on a envie de continuer, qu'on a envie de préserver, et puis d'autres qu'on a malheureusement envie d'arrêter là maintenant. Bon, excuse-moi pour terminer sur cette note un peu négative.